Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'amitié de Dieu. Dieu est-il ton ami ? Est-il possible de vivre cette relation avec Dieu comme avec un ami ? Certaines personnes ont peur d'un Dieu lointain, un Dieu mystérieux qu'ils ne connaissent pas. D'autres voient Dieu comme un père. Mais il y a une révélation aussi que nous donne la Bible, la parole de Dieu, c'est que Dieu veut être réellement notre ami. Et découvrir en même temps qu'est-ce que ça veut dire de vivre au quotidien avec quelqu'un qui est notre ami. En introduction, dans un des livres de la Bible, dans les Actes des Apôtres, il est parlé de Théophile, pour dire « Bonjour Théophile ». Et quelqu'un pourrait être étonné, mais je ne m'appelle pas Théophile. Pourtant, c'est comme ça que le livre des Actes des Apôtres commence. Il commence par « Cher Théophile ». Et quelques traductions récentes ont rendu ça par « Cher ami de Dieu ». Parce que Théophile, le nom signifie « celui qui aime Dieu ». Donc c'est une proximité, il y a peut-être eu quelqu'un qui s'appelait réellement comme ça, à qui Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a écrit, mais en même temps on comprend facilement que ça s'adresse à chacun d'entre nous qui sommes amis de Dieu, pour nous communiquer qu'ont fait les premiers chrétiens, tout au début de l'Église, quels étaient les premiers pas de l'Évangile, comment il a gagné le monde méditerranéen. Et donc, le récit des Actes des Apôtres s'adresse à chacun de nous, à tous ceux qui sont amis de Dieu. Et on va comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est d'être ami de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, et là j'ai la version de la parole vivante, Jésus dit la chose suivante à ses proches. Il dit pas, des fois dans la Bible c'est précisé, tournant vers les foules ou alors parlant à ses disciples ou parlant juste à une personne. Mais là c'est juste les quelques disciples qui sont proches de lui. Il dit, mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc il y a vraiment quelque chose de la proximité. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun. Premièrement, dans la vie, c'est bien d'avoir un ou une amie. Même plusieurs peut-être, mais le terme ami, ça veut toujours dire quelques personnes, c'est jamais une multitude. Et ensuite, on verra aussi comment on peut vivre cette amitié avec Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus appelle ses disciples ses amis ? C'est vraiment extraordinaire aussi, parce que quand on compare avec toutes sortes de groupes humains ou de religions en général, les leaders, les dirigeants, ils cherchent à avoir une place à part. Ils ne veulent pas être des amis parmi les amis, mais au contraire, être au-dessus, de dire « moi, voilà, il faut des titres, il faut un respect, il faut de la distance. » Et Jésus, une fois de plus, on pourrait dire, par rapport au fonctionnement humain et la nature humaine, il fonctionne à l'envers. Il se met à proximité de chacun, et même tellement proche, que dans la Bible, il nous est dit que pendant le repas de la Sainte Cène, le dernier repas, Jean était couché contre Jésus. Ils étaient tellement un cercle d'amis proches que voilà, ils étaient ensemble comme ça, et c'est extraordinaire de réaliser ça. Il n'y a pas du tout cette distance. C'est comme dans, ça a aussi dégénéré, et ça il faut le dire, même dans certaines églises qui ont la bonne doctrine, qui fonctionnent bien par certains égards, mais où il y a des gens qui se sont pris pour des superstars chrétiennes, et vous avez le service d'ordre, vous avez des gens qui empêchent tout accès, que personne ne les touche, et ils interviennent comme des stars à certains moments dans les réunions, vous avez comme les spots, et puis on vient sur l'estrade, il y a des choses où on a dévié de la simplicité de l'Évangile. Comme quelqu'un a dit une fois, quand Jésus a dit « Laissez les petits enfants s'approcher de moi », il n'a pas perdu son onction parce qu'un enfant l'a touché ou est couru vers lui ou même quand il était bousculé par la foule, parce qu'il n'y avait pas toujours le cordon de sécurité du service d'ordre qui empêchait les gens. Quand cette femme, par sa foi, a touché le vêtement de Jésus et une force est sortie de lui, alors il a dit « Qui m'a touché ?» Et les disciples ont dit « Mais enfin, il y a plein de monde autour de toi, c'est la cohue, la bousculade, il y a plein de gens qui t'ont touché. » Mais il a senti qu'il y avait un toucher qui était différent, ce toucher de la foi qui a permis que la puissance de Dieu qui était en Jésus aille dans le corps de cette femme et la restaure complètement. Donc vous voyez, il n'y a aucune menace contre l'onction, contre la puissance de Dieu, contre le fait d'être un homme, une femme de Dieu et d'être proche des gens. C'est tout à fait compatible, et non seulement compatible, mais encore la volonté de Dieu. C'est qu'on soit proche de tous ceux qui en ont besoin. De découvrir, redécouvrir le mot amitié. Le mot amitié implique bien davantage qu'une simple rencontre occasionnelle avec quelqu'un. L'amitié, c'est une relation profonde, pleine de confiance. Voyez, on parle aussi de Dieu comme notre roi, mais à nouveau, on a toutes nos idées de comment les humains ont fonctionné dans les monarchies, etc. Alors comment ça se passe? À la cour du roi, il y a des serviteurs qui doivent garder leur distance, mais il y a des amis intimes qui jouissent d'un accès direct auprès d'un monarque. C'est la même chose dans les grandes entreprises. Si vous voulez, avec un homme très haut placé ou un homme politique, d'abord il faut passer par la secrétaire, le directeur de cabinet, etc., voir s'il y a un agenda, une possibilité. Mais vous pourriez imaginer que si l'enfant de la personne a une priorité, son père, s'il a une bonne relation avec son enfant, dirait « Mais bien sûr, je suis disponible pour toi ». Donc, de la même façon, des amis intimes jouissent d'un accès direct auprès du monarque, qui partage souvent avec eux des informations confidentielles. On peut avoir dans la vie des gens qui vont vous dire, si vous avez ça, vous êtes heureux, ils vont dire, je ne le dis qu'à toi. Des fois, ça se dit souvent, je ne le dis qu'à toi, mais normalement, c'est effectivement, si je ne le dis qu'à toi, ça veut dire que tu fais partie d'un cercle plus restreint d'amis. Donc, il y a des informations confidentielles. Alors, comment puis-je devenir l'ami de Dieu, demanderez-vous? Eh bien, en étant sans cesse en contact avec lui. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, mais que vous n'avez pas de contact fréquent, il peut y avoir la distance, il peut y avoir des occupations, mais il y a quelque chose de pas normal. Il faut qu'il y ait des contacts fréquents ou s'il y a une distance, s'il y a des occupations, mais vous êtes en contact par la pensée. Vous pensez. Si vous voulez compter vos amis, c'est simple, c'est les gens auxquels vous pensez. Maintenant, si vous voulez une bonne relation avec des amis, il faut que ça aille aussi dans l'autre sens, parce que c'est comme on peut être amoureux de quelqu'un et l'amour n'est pas partagé, alors ça n'aboutira jamais à rien. Et donc, une amitié ne pourra jamais s'épanouir s'il n'y a pas dans les deux sens. Mais vous savez que les personnes qui vous sont chères, c'est simple, c'est celles auxquelles vous pensez. De la même façon, celles qui vous font souffrir aussi. Vous êtes tout le temps en pensée, et là, c'est des choses où vous devez prier pour les bénir, pour leur pardonner, pour prier pour que ça change, etc. Mais c'est très simple, finalement. On n'a pas besoin de se casser la tête en disant, qui sont mes amis? C'est ceux que je vois, ceux qui pensent à moi, ceux à qui je communique. Donc, Dieu désire avoir davantage qu'un droit de visite le dimanche matin ou un rendez-vous de quelques minutes dans un agenda quotidien chargé. On a inventé tout, on a voulu tout faire pour booster notre relation avec Dieu. Il y a eu prier tous les jours pendant une heure. Alors il y a des gens qui mettaient leur réveil là pour tenir les 60 minutes. Et donc j'ai même vu un moment, donc d'autres choses se sont développées. La minute avec Dieu, ça existe aussi. Donc il y a la minute avec Dieu, il y a l'heure de Dieu, etc. Et donc il y a plein de choses où on essaye de se pousser en avant. Mais moi j'aimerais pas devenir complètement seulement émotionnel ou sentimental, mais quand même dire c'est pas tellement compliqué que ça. C'est selon les penchants de votre cœur. Si vous aimez quelqu'un, vous pensez à lui. Si vous aimez Dieu, vous allez lui parler. être sans cesse en contact avec Dieu. Il veut participer à toutes vos activités, vos conversations, vos loisirs, partager vos idées, vos problèmes, vos doutes. Alors comment est-ce que vous pouvez avoir cette conversation constante avec lui? Discuter avec lui de tout ce que vous êtes en train de faire ou sur le point de faire. Donc il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Dans la présence de Dieu ». Et cet homme était un cuisinier dans un monastère français. Il a écrit « Le secret pour devenir ami de Dieu n'est pas de changer quoi que ce soit forcément dans vos activités journalières, mais de changer l'attitude qui vous anime en les faisant. Apprenez à tout faire pour la gloire de Dieu. » C'est tout simplement le principe des évangiles, hein. Il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc apprenez à tout faire pour la gloire de Dieu. Quand vous mangez, vous lavez, vous reposez, videz les poubelles. Certains chrétiens pensent qu'ils doivent s'isoler afin d'entrer dans l'intimité de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais appris à jouir de sa présence à travers toutes leurs activités. Vous ne serez jamais plus près de Dieu que vous l'êtes en ce moment. Quelqu'un dit une fois, Dieu est la distance de la prière. Vous faites monter une prière à Dieu, n'importe où, n'importe quand, vous êtes en contact avec lui. Il n'y a pas tout un rituel cérémonial pour rentrer dans la présence de Dieu. Et donc, au jardin d'Éden, il y avait deux êtres humains qui étaient créés par Dieu et jouissaient simplement d'une amitié profonde avec lui. Et on voyait d'ailleurs là, que vers le soir, eh ben, Dieu voulait se promener avec Adam dans le jardin. C'était quelque chose de très simple. C'est pas un rituel, c'est pas du religieux, c'est très très simple. Ils n'avaient pas besoin de ces rituels pour s'approcher de lui. Ils étaient ignorants de la peur, du remords, des choses comme ça. Ils étaient heureux de la présence de Dieu et Dieu était heureux avec eux, oui, lui aussi. Il lui aussi est heureux de cette amitié, de cette présence, puisque c'est pour ça qu'il nous a créés. Pas pour avoir un peu d'animation sur la planète Terre. Oh, il y a des petites choses qui se passent là, comme c'est mignon. C'est pas ça. Il cherchait vraiment quelqu'un avec qui il pouvait être en communion, en esprit. Donc, est-ce que c'est possible à nouveau de jouir d'une telle relation? Ben oui, tout à fait. Parce qu'il nous est dit dans Romains 5, 10, « Nous sommes redevenus amis avec Dieu grâce à la mort de son Fils. » Donc voilà, alors est-ce que tu es l'ami de Dieu? Hein? Est-ce que c'est possible d'avoir Dieu pour ami? On peut se poser des questions dans le sens de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme obstacle? Je peux pas le voir. Dans le sens visiblement, on n'a pas de contact, etc. Mais il y a des gens qui ont développé des amitiés par lettre. D'accord? On a des gens qui ont eu une correspondance parce que par le courrier, on peut échanger sur nos idées, les choses qu'on aime, etc. Et on peut développer une réelle amitié, puisque âme partagée, ça a donné amitié. On peut partager les choses, les émotions, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on aimerait, ce qui nous fait plaisir, etc. On peut le partager en s'écrivant. Donc il peut y avoir des échanges de lettres et les gens ont vécu une correspondance, des fois des gens célèbres, des fois des poètes ou des auteurs, etc. On parle des correspondances qu'ils ont eues, ils ont échangé leurs idées. Et on peut donc être amis sans se voir. Je dis pas que c'est le mieux, mais c'est possible. Donc c'est pas un obstacle puisque Dieu nous a écrit des lettres, beaucoup dans la Bible, où il nous parle de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il... Et vous pouvez lui répondre. Ensuite, maintenant, nous avons le téléphone. Donc, il y a des gens qui sont peut-être éloignés niveau kilométrage et peuvent pas se voir souvent, mais ils peuvent s'appeler. Donc, on peut de nouveau avoir des échanges encore et encore. Et on nous est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on peut être constamment en relation avec lui et savoir quelles sont ses idées, ses pensées. Il y a des échanges comme ça. Et donc maintenant, les lettres, le téléphone, ben avec la technologie qui évolue, ben les mails, on peut s'écrire donc par Internet, on peut s'écrire des choses. On peut être ami sur Facebook. Alors, c'est une amitié. Chacun va voir, et là c'est très intéressant, jusqu'à où il veut partager. Alors quelqu'un écrit, il n'y a pas trop longtemps, j'ai vu, elle dit... ne crois pas que mon compte Facebook, c'est mon journal intime. Je ne mets pas tout dessus, parce que c'est un mur public. Hein, beaucoup de gens peuvent le lire. Mais on peut imaginer, effectivement, que c'est le début d'une amitié. Puisqu'on commence à dire ce qu'on aime, ce qu'on croit, ce qu'on fait, etc. C'est comme ça que ça commence, l'amitié. Une relation d'amour peut commencer soit par un coup de foudre et c'est le grand amour jusqu'à la fin de sa vie, ou alors ça peut être une façon d'apprendre à se connaître qui se développe, qui devient de l'amour et qui ensuite s'épanouit. De la même façon, on peut être ami tout de suite, on appelle ça des atomes crochus, on sent « Ah, il y a quelque chose de fort !» Ou alors on peut apprendre à se découvrir peu à peu et voir « Tiens, il y a quelque chose de vraiment de solide qui est en train de se construire entre nous. » Donc, quel que soit le support, lettre, téléphone, mail, Facebook ou d'autres choses, finalement, qu'est-ce qui est important? C'est que les gens montrent ce qu'ils veulent. D'accord? C'est ça qui compte. On montre ce qu'on veut dans notre relation avec les autres. Et c'est ça qui fait la profondeur de notre relation. Donc, bien sûr, il y a des gens, ce qu'ils publient, par exemple, sur Internet, c'est complètement autre chose que ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils vivent. Donc, on utilise un pseudo, on prend une autre photo ou un truc qui ressemble pas du tout. Mais dans la vraie vie, c'est pas différent. Les gens montrent aussi une certaine façade, etc., pour... Donc, il y a des gens qui ont une double vie. On appelle ça une double vie. Des fois, c'est péjoratif. Des fois, ça veut dire on n'est pas celui qu'on prétend être. Mais on a tous un peu ou beaucoup une double vie. On a ce qu'on montre et ce qu'on cache. Bien, ma démonstration, c'est que dans cette réelle amitié avec Dieu, on va de plus en plus s'ouvrir à lui. Parce que même si on croit dans notre intellect qu'il sait tout, au fond de nous, on a des choses qu'on n'a pas totalement exposées à la lumière de Dieu. Parce que c'est là qu'il veut travailler, corriger, aider, etc., pour nous transformer. Donc, dans notre vie d'amitié, on a des fois des jardins secrets, des choses qu'on veut conserver. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. C'est ça qui nous motive. Mais si l'autre sait ceci, cela, alors il sera peut-être plus mon ami. Donc, il y a des choses peut-être que je veux cacher. Ces choses qu'on a peur de perdre, ça montre à quoi on tient ou à qui on tient. On ne veut pas les perdre, mais ça montre que ça a de l'importance. Donc, ce n'est pas forcément négatif parce que ça révèle que cette amitié pour nous, elle est importante, elle est précieuse. Mais il faut arriver au point où, de plus en plus, on pourra ouvrir certaines choses, dire certaines choses et arriver au point d'avoir un ami sans être 100% d'accord. Parce que c'est important d'en arriver à ce point où on peut dire « Je suis ton ami, je resterai ton ami, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ceci ou cela, on n'a pas toujours les mêmes goûts pour ceci, cela, mais ça n'empêche pas d'être ami. » J'ai souvent cité, mais c'était pour moi une telle révélation, qu'un jour mon ami, le pasteur John Madden, a fait cette déclaration. Il a dit « Je ne connais personne qui soit 100% d'accord avec moi. » Et sur le moment, je me suis dit « Mais je croyais être ton ami. » Et c'est là que j'ai réalisé, oui, c'est vrai. On a des choses qu'on ne partage pas, mais pourtant l'amitié, elle peut être réelle. Il y a des choses où on ne se voit peut-être pas forcément, mais avec ceux où vous êtes vraiment amis, vous pouvez ne pas vous voir pendant plusieurs mois. Ben, le jour où vous êtes ensemble, c'est comme si vous étiez séparés de hier. On l'a expérimenté souvent. Donc on pense à lui, ça va dans les deux sens. Parce que si c'est une amitié à sens unique, ne marche jamais. Hein. Vous pouvez voir aussi que dans les relations humaines, des fois on utilise mal certains mots. Hein. Alors il y a des mots qui commencent à être dilués. On utilise le mot amour à tort et à travers, alors que c'est quelque chose qui... Ça peut être j'aime quelque chose, un objet, manger quelque chose, etc. Ou j'aime Dieu, on utilise le même mot, alors que c'est très différent. Ben, pour les amis, c'est pareil. On peut dire d'une façon mondaine, chers amis, etc., blablabla. Alors tout le monde est ami, mais ce n'est pas ça la vraie amitié, c'est juste l'utilisation du mot. Donc quelques définitions encore pour nous aider là, par rapport à l'amitié. Donc un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de vous et qui vous accepte comme vous êtes. Ou, on pourrait dire, qui vous aime quand même. Oui, j'aime bien utiliser le « quand même », parce que vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Donc il y a forcément des choses qui vont déplaire. Vous n'êtes pas comme il faut, d'après la pensée peut-être de l'autre, mais ça n'empêche pas une vraie amitié, si c'est une vraie amitié. Proverbe 17:17 souligne ça. L'ami aime en tout temps, dit une certaine version. Et là, dans cette version que j'utilise, c'est l'ami aime en toutes circonstances. Vous voyez, ça ne dépend pas du moment ou de la situation dans laquelle vous êtes. En toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et ça, on a souvent constaté, c'est pas quand tout va bien qu'on compte les amis, mais c'est quand c'est difficile. C'est là que vous rendez compte de ceux qui s'intéressent à vous ou qui vous soutiennent. Et concernant nos jardins cachés, nous avons besoin, justement, pour vivre pleinement cette amitié avec Dieu, de réaliser un certain nombre de faits. Les faits bibliques, c'est Hébreux 4:13. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, quel est le sens de la question de Dieu dans le jardin? Quand il nous est dit dans le jardin d'Éden, Genèse 3:7, voilà ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et se firent des ceintures. Et quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9, « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Je croyais que Dieu était omniscient. Pourquoi il demande « Où es-tu ? » Il voulait donner l'occasion à Adam et Ève de se manifester. Ils voyaient bien qu'ils étaient en train de commencer à vivre, maintenant que le péché était rentré dans leur vie, à vivre le début de la prison, de la peur, de se cacher, de tout ça. Alors que lui, il voulait une relation ouverte, où on cache rien, où on est vraiment amis dans la transparence. Et donc c'était une main tendue, où il aurait pu dire « Au secours Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé ». Non, non, alors on a vu que la cachotterie, ça a commencé, « C'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui », etc. Et de vouloir ce qu'ils avaient perdu, ce revêtement de la gloire de Dieu, c'est ça leur vraie nudité. C'est pas le fait que physiquement ils n'avaient pas d'habit. Ils avaient perdu quelque chose, ils n'étaient même pas conscients réellement à ce moment-là de ce qu'ils avaient perdu, mais les sentiments étaient là. Le remords, la peur, plein de choses. Et donc Adam répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Donc rappelez-vous, ce n'est pas au moment où vous avouez votre faute à Dieu, ou votre faute, erreur, bêtise, péché, qu'il l'apprend. D'accord ? C'est pas à ce moment-là. Donc c'est pas la peine de se cacher et de courir loin de lui. Ils étaient allés loin de lui, il nous est dit. Mais nous sommes plutôt encouragés à venir vers lui. Allons vers lui. La route nouvelle et vivante est ouverte par Jésus, par son sang. Donc on peut courir vers lui. Et rappelez-vous, Romains 10:5, on a dit tout à l'heure, nous sommes redevenus amis de Dieu grâce à la mort de son Fils. Alors comment avoir cette amitié avec Dieu ? Bien, une condition qui est nécessaire, c'est l'honnêteté. Dieu ne s'attend pas à ce que vous deveniez forcément parfait, mais il s'attend que vous soyez honnête avec lui. Ça va vous aider pour vous-même aussi, sinon vous vous trompez vous-même. Il nous est dit dans l'épître de Jacques, il est dit c'est comme un homme qui regarde dans un miroir comment il est, et après il oublie de nouveau et il s'en va. Et donc on a une fausse image de qui nous sommes, mais on a besoin de voir qui nous sommes réellement. Si la perfection était nécessaire, personne ne deviendrait son ami. Dans la Bible, les amis de Dieu étaient toujours honnêtes envers lui quant à leurs émotions, même au point de se plaindre et de discuter avec lui. Certains ont osé discuter avec Dieu. Et donc on va voir deux, trois exemples. Et Dieu acceptait cela naturellement. Il l'encourageait même. Dieu a écouté avec une grande patience David l'accuser de ne pas être juste, de l'abandonner ou de le trahir. Dans combien de psaumes, nous n'avons pas des psaumes qui sont toujours des expressions de foi. Mais des fois, ce sont des psaumes qui sont des cris au secours. « Où es-tu Dieu ? Je suis seul, je suis abandonné, les ennemis sont autour de moi, ils veulent me détruire. » C'est pas « Je suis toujours triomphant, tout va bien, nanana. » Il y a aussi des psaumes où il dit « Dieu est mon refuge. » Mais les psaumes traduisent tous ces états d'âme. Et de temps en temps, il doutait de l'appui de Dieu comme ami. Pourquoi ? Ben parce qu'il avait aussi expérimenté la trahison d'êtres humains qui sont des amis. Et donc ça a forcément des effets, puisque notre âme, elle est comme ça. Si elle a été blessée, après on doute de Dieu à cause de ce que les hommes nous ont fait. C'est quand même grave, mais c'est comme ça. Dans le psaume 55, qui dit d'ailleurs, psaume face à la trahison d'un ami, le psalmiste, il dit la chose suivante... Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, verset 13. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang. Toi, mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait que ce genre d'expérience que nous faisons les uns avec les autres ont des effets sur notre relation avec Dieu si on n'y prête pas garde. Donc on pense que, ah mais on n'est pas sûr non plus, est-ce que Dieu va toujours me soutenir ou est-ce que peut-être pour une faute ou parce que je ne suis pas parfait ou ceci cela, il ne va plus manifester son amitié à mon égard. Donc c'est important de réaliser que Dieu est différent et que ça se passe sur une autre base. On a dit David, il a fait des choses comme ça. Dieu n'a pas réduit Jérémie en cendres lorsque celui-ci l'accusa de s'être moqué de lui. Job a exprimé toute son amertume envers Dieu qui l'a félicité d'avoir été honnête. Mais à un moment, il s'est plaint aussi. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors j'ai toujours été intègre. Mais Dieu a condamné les amis de Job pour avoir manqué de droiture. Mais il a dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon ami Job. Mon ami Job priera pour vous et j'exaucerai sa prière. Mon ami Job, chaque fois mon ami Job. Quand Dieu vous appelle son ami, alors là c'est la récompense suprême. Donc, si vous voulez être son ami, vous devez partager avec lui vos vraies émotions et pensées. Pas ce qui vous semble religieusement correct. Vous n'avez pas besoin de faire non plus de longues prières compliquées qui vous fatiguent. Mais vous avez besoin de parler de votre condition. Une autre condition pour devenir l'ami de Dieu est aussi l'obéissance. L'obéissance, ça veut dire, on a lu tout à l'heure dans Jean 15, 14, « Mes amis, c'est vous dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. » Il y a aussi là une raison à laquelle nous prenons garde à la parole de Dieu. Alors, il y a une grande récompense. On a dit tout à l'heure que dans la suite de Jean 15, c'était que lorsqu'on est les amis de Jésus, on connaît les secrets des intentions de son maître. Et ça, c'est aussi une expérience que nous faisons en tant qu'amis de Dieu. Cacherai-je à mon ami ? Dans Genèse 18, 17, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Nous sommes les enfants d'Abraham, c'est le père des croyants. Donc de la même façon, nous pouvons considérer Abraham, qu'est-ce qu'il a vécu avec Dieu ? Jacques 2, 21, « Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de sa foi, a été mené à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Il a été appelé ami de Dieu, et en même temps, vous voyez cette phrase qui est attachée. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Quand vous êtes l'ami de Dieu, alors il vous montre des choses. Qu'il ne dit pas à n'importe qui, parce que vous êtes dans son cercle personnel, intime, et que là, ça commence, je dirais, à devenir vraiment intéressant, parce que là, il a un impact plus grand dans tous vos désirs, dans toutes les choses que vous voulez vivre. Amos 3:7 nous dit aussi la chose suivante. « En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien, tout le monde souligne, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu et nous sommes tous appelés à être prophètes. Prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu. On a toujours cette caricature. D'un côté, dès qu'on entend prophète, on pense à un bonhomme de l'Ancien Testament avec une longue barbe. Ou alors, on a prophète, des gens qui prédisent l'avenir et qui savent tout des détails de la vie des gens. Non, prophète, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc on est tous appelés à faire ça et il nous est dit, Dieu révèle ce qu'il veut faire à ses serviteurs, les prophètes. Et un verset que nous avons utilisé pas long, il n'y a pas longtemps, mais on le reprend encore une fois parce qu'il est tout à fait adapté pour notre sujet d'aujourd'hui. Jérémie 33, 2. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel fait appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Donc, on est dans un esprit de révélation. Révélation, c'est ce que Paul priait instamment pour les Éphésiens. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et tout à coup, la clé de la sagesse s'ouvre et on sait comment agir dans un certain nombre de situations qui, normalement, dans la nature, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais réagir? Comment je vais agir avec telle ou telle personne? Quels sont les choix que je dois faire? Et tout à coup, on a un ami, un conseiller, quelqu'un qui est près de nous, qui nous montre des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Donc voilà, faut-il être parfait pour être l'ami de Dieu? Ben non. Et on peut dire, moi je crois que pour être l'ami de Dieu, je dois faire ceci, cela, etc. On peut se poser plein de questions, mais finalement, moi je préfère revenir à la parole de Dieu qui nous donne un certain nombre de définitions et d'indications. Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Donc rechercher quelque chose de la pureté de Dieu, la grâce sur les lèvres, on n'est pas médisant, calomniateur, toujours à critiquer, toujours des mauvaises choses qui sortent de notre bouche, mais la grâce, ça veut dire la faveur, on agit comme Dieu agit. Et quand on est comme ça, on a le roi pour ami, ça veut dire qu'il approuve ce que nous faisons, il approuve ce qui est en nous et ce que nous disons. Donc vous, vous n'êtes pas parfait non plus, vous choisissez pas vos amis pour leur perfection. On parle aussi de l'église parfaite, hein. On a souvent plaisanté en disant, si vous trouvez une église parfaite, surtout n'y allez pas, parce qu'au moment où vous y allez, elle ne serait plus parfaite. La perfection, on peut la poursuivre, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour être ami avec Dieu, ni pour être ami les uns avec les autres. Donc, rappelez-vous, il nous est dit que Jésus, ils l'ont critiqué en disant, il est ami avec les gens de mauvaise vie. Oh là là, que c'est grave. Mais justement, il a dit, ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Donc, nous apportons des solutions dans le monde dans lequel nous vivons. Et en terminant, j'aimerais simplement redire cette phrase qu'on a chantée tout à l'heure. Il y a une telle intimité et douceur dans cette phrase. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Et l'autre phrase, la deuxième strophe. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Et ensuite aussi cette phrase tellement importante, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Merci Seigneur pour ton soutien quotidien, pour ce qu'on peut s'attendre à toi, pour toutes tes promesses où tu as dit tu ne nous laisseras jamais tomber. C'est sûr que toi, tu ne vas jamais nous trahir d'aucune façon. Merci surtout pour tout ce que Jésus a accompli pour nous et pour ces paroles qu'il nous a laissées. Il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.